Bonjour. Bonjour. J'ai juste une question. Merci pour ce profil que vous avez bossé, qui est vraiment bien. Je vais directement à la question. Vous qui êtes rédacteur au journal Le Monde Diplomatique, du coup, vous surfez entre les deux rives. J'aurais bien que vous me disiez une idée. La France, on va dire que c'est délicat sous le prétexte de non-ingérence, on n'entend pas du tout dans les journaux, dans les médias, ni le gouvernement. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre opinion de la position des gouvernements européens occidentaux sous prétexte de non-ingérence?
Je vais vous répondre tout de suite. Vous avez raison de relever ça. Ce qui me frappe depuis le début du Hirak, c'est que c'est un phénomène, c'est une grosse actualité qui est très peu couverte. On a même l'impression parfois qu'il y a une chape de silence autour de ça. Il y a deux raisons à mon avis. La première raison, et elle n'est pas négligeable, c'est le fait qu'il faut bien savoir que mes confrères qui n'ont pas le passeport algérien, qui ne sont pas algériens, ont besoin d'un visa pour aller en Algérie, et qu'il y a un verrouillage total de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a très peu de journalistes qui obtiennent des visas. Dans la mentalité journalistique, quand vous avez un envoyé spécial qui va quelque part, cet envoyé spécial va faire pression sur sa rédaction et va l'alimenter en sujet, et du coup la rédaction à Paris ou ailleurs va être obligée de suivre et va diffuser. Dans les années, à la fin des années 80, quand on a eu toute l'ébullition démocratique, il y avait des envoyés spéciaux en permanence en Algérie, et l'Algérie faisait plus l'actualité qu'aujourd'hui. L'autre question, l'autre raison, à mon sens, il y a un désintérêt. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui n'évolue pas suffisamment vite. Il n'y a pas de violence, tant mieux pour nous, tant pis pour les médias, parce que certains ne conçoivent une couverture que s'il y a de violence, que s'il y a de la répression. Si ça se passe plutôt bien et que, ma foi, c'est un jeu d'échecs, parce que c'est un peu ce qui se passe aussi en Algérie, eh bien, médiatiquement parlant, on a du mal à imposer ça. Ça, c'est pour le côté médiatique. Sur les chancelleries, les Français ont fait une erreur majeure à un moment donné, c'est-à-dire que lorsque Bouteflika a annoncé qu'on a annoncé à sa place qu'il ferait un mandat 4++, un glissement, un mandat étendu, la France s'est dépêchée de saluer une avancée démocratique, etc., ce qui a été très mal vécu par les manifestants. On a vu les Algériens brandir des slogans hostiles à Macron. Donc du coup, il est clair qu'effectivement, se prononcer sur la situation actuelle est très difficile. Dans le cas français, c'est encore plus compliqué parce que beaucoup de relais d'influence, et je dis ça c'est pas une connotation complotiste, mais beaucoup d'interlocuteurs habituels des autorités françaises aujourd'hui sont sous les verrous. Qu'il s'agisse des généraux à la retraite, qu'il s'agisse de certains hommes d'affaires, qu'il s'agisse d'anciens ministres, qu'il s'agisse d'anciens premiers ministres, tous ces gens étaient habitués à avoir des contacts avec l'ancienne puissance coloniale. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là sont derrière les verrous, et on sent bien qu'il y a un certain flottement. L'incapacité à, côté européen et notamment français, à trouver des interlocuteurs, puisque leur accès au chef d'état-major n'est pas aussi évident que d'aller parler à un ministre ou à un premier ministre. Donc, il y a cette question-là. Et puis, il y a aussi une inquiétude par rapport à l'Algérie, qui est, là, pour le coup, elle a un rôle central. Je rappelle encore une fois que c'est un pays fondamental, on ne dit pas assez souvent, c'est un pays fondamental pour la sécurité énergétique de l'Europe. On parle souvent d'Algérie sur les questions d'immigration, les haragas, etc. Le vrai rôle de l'Algérie, jusqu'à présent, c'est de diminuer la dépendance européenne au gaz russe. L'Algérie est là, il y a d'autres pays méditerranéens qui jouent ce rôle-là, mais l'Algérie joue ce rôle-là. Et donc, l'idée que ce pays puisse demain être déstabilisé d'une manière ou d'une autre, c'est une immense épouvante. Plus les éventuelles récupérations populistes autour d'un mouvement de population qui résulterait de violences et d'affrontements. En tout état de cause, et là c'est pas complètement clair, beaucoup de pays, enfin tous les fournisseurs de l'Algérie ont potentiellement beaucoup à perdre d'un changement majeur dans la manière dont ce pays fonctionne. Parce qu'aujourd'hui l'Algérie est un bazar. C'est un pays où se déversent des milliards de dollars de marchandises venues d'un peu partout, au nom du libre-échange, au nom du commerce international, alors que c'est un pays qui peine à employer sa jeunesse, C'est un pays qui peine à créer sa propre industrie. C'est un pays qui peine à développer sa production. Donc il y a aussi ce problème-là. C'est-à-dire que le laisser-aller qu'on constate dans ce pays, les réseaux de corruption, tout cela fait de l'Algérie un client quasi permanent de nombre d'industries à travers le monde, que ce soit des industries civiles ou militaires d'ailleurs.
Oui, merci. Bonsoir Monsieur Lalit, merci beaucoup pour votre conférence, votre discours très poignant. Donc moi j'ai une question au sujet d'un compagnon de longue date de l'Algérie, qui est le Maroc. Je sais qu'on y a observé récemment, un peu comme en Algérie, une réforme sociale des jeunes qui sortent dans la rue, qui a entre autres été lancée par des intellectuels, des écrivains comme Lina Slimani ou Tahar Ben Jelloun. Vous pensez que c'est un mouvement qui est comparable à ce qui se déroule en Algérie en ce moment, s'il y a comme en quelque sorte une révolte, une réforme sociale grandissante qui va s'étendre dans le Maghreb?
Vous me donnez l'occasion de dire deux choses. La première, c'est de dire qu'en tant qu'Algérien, je suis totalement solidaire des mouvements sociaux qui se déroulent au Maroc et que je considère que le drame du Maghreb, c'est le fait que nous avons deux pays, deux peuples très proches, mais qui, en réalité, s'ignorent de plus en plus de par la séparation physique entre les deux pays, la frontière fermée et le rôle que peuvent jouer nos deux régimes respectifs dans l'instrumentalisation de rivalités régionales et chaulines. Je suis aussi solidaire avec le Hirak marocain du Rif, dont on ne parle pas assez, et dont malheureusement les intellectuels marocains que vous citez ne parlent pas non plus. Je préfère mettre, insister sur les questions sociétales, que je respecte, mais il y a aussi un mouvement qui appelle au mieux-être et qui appelle à plus de justice sociale au Maroc. De manière plus générale, ce qui se passe en Algérie est comparable à tout ce qui peut se passer ailleurs dans la sphère arabophone. C'est partout la même chose. C'est-à-dire des peuples qui demandent et revendiquent une plus grande, je ne parle même pas de démocratie, une plus grande participation à la vie politique et une plus grande transparence et une meilleure organisation du fonctionnement des États. Et un état de droit, un droit au droit, au sens de Hannah Arendt. C'est pour ça que ce qui se passe en Algérie est aussi important, parce que c'est observé de l'extérieur. Tout comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte de 2011, a eu des impacts. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si en Égypte les choses redémarrent. On est dans une séquence, il faut bien comprendre que contrairement à certains qui ont très vite décrété la mort des printemps arabes, tel qu'on les a appelés en 2011, on est dans une séquence historique qui n'est pas encore terminée. Dans un siècle, dans 50 ans, les historiens qui se pencheront sur ce que nous vivons aujourd'hui mettront ce qui se passe aujourd'hui en Algérie dans la même séquence que ce qui s'est passé en 2011. À l'échelle humaine, 8 ans, c'est beaucoup. À l'échelle de l'histoire, c'est absolument rien du tout. Et donc, on est toujours dans cette quête de peuple, des peuples qui ont eu l'indépendance, qui se sont affranchis de la tutelle coloniale, mais qui n'arrivent pas à se débarrasser de régimes autoritaires, autocratiques, qui estiment que la meilleure solution pour leur peuple est le fait que des minorités doivent diriger et décider. Ce n'est pas simplement une question d'intérêt ou de réseau de corruption, c'est une manière de voir le monde. Bouteflika, par exemple, lorsqu'il a été élu en 1999, il avait la possibilité de faire renouer l'Algérie avec le printemps démocratique de la fin des années 80. Je rappelle que l'Algérie a connu un printemps démocratique avant les pays de l'Est, que l'Algérie a abandonné le parti unique avant la chute du mur de Berlin, que l'Algérie a réformé, notamment en permettant le multipartisme et l'apparition d'une presse écrite indépendante, avant les grands bouleversements qu'a connu l'Est la zone d'influence de l'ex-bloc soviétique. Mais pour Bouteflika, ce genre de retour en arrière était impossible, parce que sa manière de voir le monde est celle de sa génération. C'est une manière de voir le monde telle qu'elle a été enseignée, telle qu'elle s'est diffusée dans les années, par les combats anticoloniaux, dans les années 50, dans les années 60. Bon, nous sommes en 2019, on est en 2020, on se dirige tranquillement vers la première moitié, on est dans la première moitié du XXIe siècle, ces manières de voir le monde sont totalement archaïques. On ne s'en sortira pas dans nos pays, au sens large, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, sans une plus grande démocratie, en tout cas sans plus d'ouverture par rapport au jeu politique habituel. Et ça vaut pour le Maroc comme pour l'Algérie.
Donc, je voudrais remercier l'association qui nous a donné l'occasion d'assister à cette conférence. Merci à vous aussi.
Ouais, Abdelaziz Bouteflika.
Moi, je voudrais savoir si vous êtes naturellement optimiste.
Justement,
votre propos s'inspire de faits concrets. Vous disiez que l'Algérie est très riche pour financer sa transition éventuelle.
Et maintenant, nous allons parler.
Par exemple, la nouvelle loi de finances qui s'est préparée.
Pour l'événement. Au total, il y a 23 secondes.
Les citoyens, on parle aussi d'avoir recours à l'emprunt extérieur. Cela me ramène aussi à ma deuxième question sur la corruption. On a entendu des chiffres dans cette polyphonie de discours. 800 milliards, 1000 milliards, 1500 milliards. Et si vous pouvez juste nous éclairer à quoi correspondent tous ces chiffres. Est-ce que c'est des recettes? C'est de l'argent volé, détourné, juste pour avoir un peu plus d'éclairage. Merci.
La formule habituelle, c'est de dire qu'on est pessimiste sur le court terme et optimiste sur le long terme. Moi, je crois à la transformation sociale, je crois au progrès. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue un peu. Il y a ces notions de politique qui sont fondamentales. Je crois que l'Algérie a la capacité de se réaliser parce que c'est inscrit dans l'ordre des choses, y compris pour un pays qui est resté sous domination coloniale pendant si longtemps et qui a finalement réussi à devenir indépendant. Ce n'était pas gagné d'avance. Hein. Mais effectivement, vous avez raison, les défis sont importants. Ce qui est sur la question de l'argent, parce qu'elle est fondamentale, c'est ça qui peut vous torpiller une transition ou pas, c'est ça qui peut vous... si vous avez un changement politique et que par ailleurs rien ne se fait sur le plan social, c'est très difficile et on voit ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, où le désenchantement post-révolutionnaire a conduit à la situation telle qu'on la connaît avec cette élection présidentielle assez particulière. Il n'en demeure pas moins que l'Algérie a les moyens parce que c'est un exportateur. Il y a une rente, il y a de l'argent. Chaque année, il y a de l'argent qui rentre. Ce n'est pas l'argent qui rentre qui pose problème, même si parfois, quand le baril monte ou descend, ça peut poser des soucis. C'est l'argent qui est dépensé. C'est ce niveau d'importation. Ce dont je parlais tout à l'heure, ce bazar, c'est cette dépendance alimentaire qui fait que l'Algérie vit un peu plus, vit au-dessus de ses moyens. Et l'idée, c'est d'arriver à une situation où ces dépenses pourraient être rationalisées. Ça, quelques premiers ministres ont essayé de faire, ils ont sauté. Pourquoi ? Parce qu'il existe un lobby en Algérie qui est le lobby des importateurs, qui s'oppose à toute réforme de fonds. Et qui empêche que ce pays soit un peu moins dépendant des importations. Et c'est là où on touche effectivement la question de la corruption. Les chiffres que vous citez, les gens partent d'un chiffre et regardent les recettes extérieures de l'Algérie, ce qui rentre dans les caisses. Mettons 50 milliards de dollars par an, 80 milliards de dollars par an. Et ils appliquent ensuite un pourcentage, en estimant la corruption à 5%, 10%, 15%, et c'est à partir de là que les chiffres sortent en matière de corruption généralisée. Beaucoup de gens vous expliquent que sur le commerce extérieur, tous les grands contrats, il y a un pourcentage de 5 à 15%, voire 20%, ce qui est énorme, qui se dilue et qui part en pot de vin divers et variés. Donc vous prenez n'importe quel grand contrat, vous appliquez ce pourcentage-là et vous faites ensuite une addition et vous avez l'idée de l'ampleur des dégâts. Pour le dire autrement, l'Algérie est une immense vache à lait et c'est parce que sa rente pétrolière a finalement été totalement détournée de son objet premier qui était d'assurer le développement du pays. On le voit bien, il n'y a pas un grand contrat en Algérie aujourd'hui qui n'est pas adossé à une affaire judiciaire. le fameux chantier de l'autoroute Est-Ouest. Ce chantier Est-Ouest, il pourrait raconter l'histoire d'Algérie. Ou le métro d'Alger. Premier coup de pioche en 1976, réalisation au début des années 2000. Voilà, ça raconte beaucoup de choses. Et les sommes en jeu, les sommes qu'on voit passer pour réempocher certains intermédiaires, les commissions versées à l'étranger, puisque parfois c'est la presse étrangère qui nous informe des niveaux de corruption qui existent dans notre pays, parce que certaines entreprises étrangères sont elles aussi concernées. Tout ça, ça vient d'où ? Ça vient du fait que les contre-pouvoirs, et notamment les contre-pouvoirs citoyens, n'existent pas. Que l'impunité est totale. Pourquoi ? Parce que la vie politique est totalement verrouillée.
Vous dites que dans les conditions actuelles, beaucoup d'Algériens seraient contre la tenue d'élection trop rapidement. Mais du coup, est-ce que vous verriez une réelle alternative politique crédible qui se dessinait à court et à moyen terme, mais qui ne serait pas issu du système actuel?
Ça va être difficile d'avoir. On ne peut pas faire table rase du passé, c'est clair. L'idée n'est pas d'empêcher les gens issus du système actuel de se présenter, pour peu qu'ils n'aient pas commis les pires méfaits. Non, l'idée c'est d'arriver à, dans une phase de transition, à la fois à assainir au maximum le système et à donner leur chance à tous ces mouvements qui sont en train de naître aujourd'hui et qui sont porteurs, à mon avis, de changements à venir. C'est juste une question de temps. Dans ma présentation tout à l'heure, j'ai parlé de la jeunesse. J'aurais dû aussi insister sur quelque chose qui me paraît fondamental. Il y a deux grands rendez-vous hebdomadaires, enfin il y en a cinq, mais il y a cinq rendez-vous hebdomadaires en Algérie aujourd'hui. Il y a le vendredi, c'est le grand moment. Il y a le ou les discours du général. Il a tendance à se répéter, à être un peu identique. Il y a les arrestations. Ça aussi, ça revient chaque semaine. Et puis, il y a ces lois qui sont passées par ce gouvernement dit intérimaire et qui ne devraient pas l'être parce que c'est trop important pour que ce soit confié à un gouvernement intérimaire. Et parmi ces cinq rendez-vous, le cinquième, je ne l'ai pas encore cité, c'est la manifestation des étudiants du mardi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que parmi les illustres confrères qu'on a vus tout à l'heure pendant le reportage, enfin le document, certains ont longtemps fustigé la jeunesse algérienne, et notamment les étudiants, en disant que rien de bon ne pouvait venir de ces étudiants, qu'ils se désintéressaient de tout. Bon, c'est un discours assez fréquent, hein, un peu partout, sous toutes les latitudes, mais c'est une belle surprise que ces étudiants qui aujourd'hui manifestent, revendiquent un changement pacifique dans leur pays et s'intéressent de plus en plus à la politique. C'est une vieille tradition algérienne qui avait fini par disparaître. Les campus dans les années 60-70 étaient des campus très politisés. Peut-être beaucoup trop, diront certains, mais en tout cas, ils étaient très politisés. Il y a eu un trou d'air avec les années 80, les années 90. Là, on voit une renaissance du fait politique. Tout ça va avoir des conséquences. Les partis actuels vont être tôt ou tard remplacés par d'autres. Il y a des initiatives, il y a des gens qui se regroupent. Il faut simplement donner du temps au temps. Si c'est pour avoir une élection présidentielle en décembre, pour que le prochain président verrouille de nouveau le champ politique comme l'a fait Bouteflika, là, l'Algérie risque de ne jamais s'en remettre. C'est pour protéger toutes ces initiatives naissantes, ces jeunes pousses, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il faut absolument que ces élections, cette élection présidentielle, qui finira tôt ou tard par se tenir, soit la plus, équitable possible et que le système ne soit pas perverti comme il a toujours été.
Bonsoir. Merci beaucoup pour votre discours. Je voudrais rebondir sur les perspectives que vous avez évoquées pour le peuple algérien. Vous en avez évoqué trois. La première, c'est d'aller voter aux élections. Et on comprend tous pourquoi ce serait une erreur de continuer avec ce nouveau système. Vous avez évoqué la possibilité d'une assemblée constituante. Mais il faudrait d'abord que le peuple ait changé les institutions pour pouvoir mettre en place des gens qui auraient vraiment nos intérêts à cœur et pas les leurs. Et vous avez également parlé des élections « améliorées », entre guillemets. Mais de la même manière, il faudrait déjà que le peuple algérien ait le pouvoir entre les mains pour pouvoir mettre en place les institutions qui permettent ce type d'élection. Alors ma question, ce serait pourquoi ne pas envisager la quatrième option qui serait une constitution citoyenne? Pourquoi pas laisser directement au peuple algérien le pouvoir de choisir quelles seront les lois qu'il veut impliquer ou pas dans son pays?
Vaste programme, c'est un peu ce qui saute aux yeux quand on regarde un peu l'actualité de près, qu'on voit les initiatives, c'est que malheureusement, l'Algérie a hérité d'une maladie française qui s'appelle la centralisation. On n'y peut rien. Beaucoup de choses se décident à Alger et beaucoup trop de choses se décident à Alger. Or, de tous les côtés, on se tourne d'un pays, on voit l'émergence de revendications de prise en charge locale des problèmes locaux. Donc ça préfigure un peu ce que vous dites aussi, parce que ce genre de solution que vous prenez, ça ne peut marcher que si ça part de la base. Pour le moment, le schéma politique, le schéma de la manière dont les gens envisagent les choses, demeure encore l'idée du haut vers le bas. Et cette focalisation d'ailleurs autour de l'élection présidentielle, c'est une maladie aussi bien, j'ai presque envie de dire, bien arabe. C'est-à-dire on attend l'homme providentiel, on attend le Zarim qui va tout changer. Or, il faut en finir avec cette idée, parce que le Zarim, il finit toujours par devenir autocrate. Même Nasser, à un moment ou à un autre, il a dérapé. On voit bien dans l'histoire de l'Égypte des années 60 ce à quoi conduit l'unanimisme et la réunion autour d'un homme fort. Et ça, c'est aussi une idée à battre en brèche. Il faut le dire, il faut le répéter. Non, y a pas, la solution ne résidera pas entre les mains d'un seul homme. Mais c'est toute une mentalité politique qu'il faut remettre en cause. Et on a du mal, parce que quel que soit d'ailleurs la couleur politique des gens, soit de gauche, islamiste, de droite ou libéraux, c'est toujours on se réunit autour d'un homme lige et qui est censé décider pour tout le monde. Or, ce qui est intéressant avec le Harak, c'est qu'on a un mouvement horizontal. On a, et c'est très difficile pour les voix qui émergent de se faire admettre, parce qu'elles sont immédiatement contestées et remises en cause par la jeunesse. Donc ça veut bien dire qu'on a des formes de penser et de réfléchir qui sont conformes à l'évolution de ce siècle, qui sont aussi en train d'émerger en Algérie. Mais pour une réflexion aussi poussée que la vôtre, pour le moment, ce n'est pas encore sur la table.
Alors, ce sera les deux dernières questions. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion d'interagir davantage avec le conférencier après. C'est juste
là. Oui, il n'y a aucun souci. Hein.
Bonsoir.
Ma question va un peu rejoindre la question précédente. Ne pensez-vous pas qu'un régime parlementaire en Algérie serait plus adapté à l'heure actuelle qu'un régime présidentiel, étant donné le refus du peuple face à chacune des élections orchestrées depuis le mouvement de février?
Pour qu'il y ait un régime parlementaire, il faudrait un changement de constitution. Or, nous avons actuellement un régime présidentiel très 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 fort. Ça a été bien dit par les intervenants. Le Parlement, en plus la constitution du Parlement née d'élections totalement contestables, fait que ça a toujours été une chambre d'enregistrement. Les députés actuels voteront ce qu'on leur demandera de voter, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si on veut un régime parlementaire, il faut avoir l'assurance que le jeu politique aura été assaini par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, où on a assisté à des phénomènes d'achat de vote, où des députés ont acheté leur charge, comme dans l'ancien régime français où on achetait une charge. On sait qu'il y a des députés au Parlement algérien aujourd'hui qui ont acheté ou qui ont monnayé leur position. Donc, régime parlementaire, pourquoi pas, ça c'est vraiment décidé, mais pas dans les circonstances actuelles, pas dans les conditions actuelles. Ça me paraît totalement dangereux aussi.
Bonsoir à Khan, merci d'avoir la main et d'avoir permis cette conférence. Merci à vous de vous déplacer depuis Paris, de nous avoir éclairé sur la situation en Algérie, même si on suit l'actualité être d'heure en heure, mais on n'a pas eu cette possibilité, cette opportunité d'une analyse aussi pointue. Alors, moi j'ai envie de dire, certainement je pense beaucoup aux jeunes, à la génération de mon temps, qui est vraiment animée, qui est motivée, qui a envie de faire des choses pour son pays, qu'elle soit à Alger, en Algérie ou qu'elle soit à l'étranger. J'ai envie de vous poser juste une seule question. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ou comme, je veux dire, outils, quelles sont les touches, les points sur les choses sur lesquelles ils peuvent aller pour pouvoir peut-être débloquer, pour pouvoir tracer leur chemin et apporter quelque chose à notre pays?
C'est une... Un conseil peut-être pas, parce que je pense qu'ils sont ils ont une force en eux-mêmes qui inspire le respect. J'avoue que je suis impressionné, parce que moi j'appartiens à une génération, la génération née juste après l'indépendance et qui n'a pas fait ce qu'ils ont fait. Ma génération, les quinquagénaires, et aujourd'hui en Algérie, en octobre 88, on s'est très vite calmé. On n'aurait jamais dû accepter la transition qui nous a été proposée à cette époque-là, c'est-à-dire que le même gars qui a ouvert le feu sur la population s'est présenté comme étant, je parle du président Chadli et de ceux qui l'entouraient, s'est présenté comme celui qui allait faire le changement. Or, ça n'aurait pas dû se jouer comme ça parce que le verre était dans le pied de l'État. Ce que je dis souvent, parce que ça, votre question interpelle aussi les gens de la diaspora. Il y en a beaucoup parmi nous ici ce soir. Je pense que la diaspora, elle doit se tenir dans le rôle de passeuse. On ne va pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, on doit juste dire aux gens qu'on est là pour les aider s'ils ont besoin de nous. Et sur place, qui m'interpelle, c'est de dire effectivement à cette génération, hein, encore une fois, qui a déboulé alors qu'on n'y attendait pas, qu'on pensait qu'elle était confinée dans les stades, de lui dire que son ouverture sur le monde, c'est ce qui la sauvera. C'est-à-dire que plus elle va s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, et elle a les moyens pour ça, elle a une chance merveilleuse, elle a les réseaux sociaux, elle a Internet, plus elle va s'inspirer de ce que font les autres jeunesses du monde, les autres contestataires, les autres mouvements d'émancipation, de changement, et plus elle a les chances de réussir. C'est ça qui est... L'Algérie s'est toujours nourrie dans ses combats, notamment le combat nationaliste, des combats d'autres. Depuis quelques années, on a incité les Algériens, alors il y avait des circonstances qui plaident pour ça, mais on a beaucoup incité les Algériens à se refermer sur eux-mêmes, notamment après la décennie noire. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Il faut absolument que ce pays, cette population, cette génération, s'inspire et se nourrisse aussi des exemples d'autrui, de ce que font les jeunes marocains, de ce que font les jeunes tunisiens, des mouvements de contestation sociaux, ceux de l'intérieur du pays, de Brasserine, etc. Mais de manière plus générale, de ce qu'on appelle le monde arabe et de ce qu'on appelait jadis le Sud, c'est-à-dire d'autres pays qui sont eux-mêmes confrontés à ce à quoi nous sommes confrontés. On a beaucoup à apprendre de la jeunesse chilienne, on a beaucoup à apprendre de la jeunesse du Venezuela, on a beaucoup à apprendre de la jeunesse argentine, tous ces peuples qui, eux aussi, comme les peuples algériens, ont été confrontés à des régimes autocratiques, ils ont gagné la démocratie, mais même chez eux, rien n'est joué. Donc voilà, moi c'est ça, c'est l'idée que il y a beaucoup à apprendre de ce qui se passe, donc ça veut dire la lecture, ça veut dire les conférences, ça veut dire se nourrir aux sources, etc. Et c'est ce langage-là qui est, à mon avis, porteur aussi de résolutions et de solutions pour le futur.
Merci beaucoup pour ce débat très très enrichissant. Merci à M. Akhmed d'avoir accepté notre invitation.
Je voudrais remercier la salle et c'est toujours très profitable parce que toujours aussi très, très égoïste de la part du conférencier parce que toute question posée est potentiellement un article à venir. Et...
malheureusement, on doit clore le débat dans la salle, mais vous pouvez continuer le débat dehors. On a vraiment préparé un très très beau buffet. Juste, dernière chose à dire, je tiens vraiment à le dire. Je voudrais remercier toute la MAJ pour avoir tous les membres de la MAJ qui sont investis. Je voudrais surtout remercier Lotfi, Faisal et leur maman pour avoir vraiment donné beaucoup beaucoup pour cet événement et cette conférence. Donc vraiment des applaudissements pour eux aussi, vraiment.